Alors, quelle belle introduction. À chaque fois, c'est impressionnant de voir comment on l'entend souvent les dimanches, comment l'introduction prépare la prédication sans s'être concerté. Et effectivement, notre thème aujourd'hui, c'est la foi. De voir combien finalement tout ce qui est visible ici sur notre terre, que ce soit les fourmis, que ce soit tout cet ordre que Dieu a mis en place, finalement, que ça vient de l'invisible. Que c'est pas l'inverse. Finalement, c'est de l'invisible que vient ce que l'on voit ici. Et aujourd'hui, on va parler de cette foi dans ce que l'on ne voit pas, mais cette foi qui sauve. Croire en Dieu, finalement, c'est avoir la foi. La foi, c'est regarder plus loin que ce que l'on peut voir ici. C'est considérer ce qui se passe dans ce monde invisible. Et moi, je suis toujours étonnée de voir combien l'être humain il a besoin de comprendre, de savoir d'où il vient, d'avoir des explications sur le monde dans lequel il vit et comment l'être humain il peut passer finalement à côté de l'essentiel tout en ayant un cœur vraiment prêt à tout donner pour son idole. Je vous donne un exemple avec Pierre, là, il n'y a pas très longtemps, on a regardé un épisode de Rendez-vous Inter Inconnu. J'aime bien l'émission. Et Frédéric Lopez, du coup, et Thomas Pesquet étaient partis dans une tribu, les Cogis, du sud de l'Amérique. Et où tout était pour la terre-mère. Ils vénéraient la terre-mère. Ils avaient vraiment cette conscience que c'était elle qui décidait de tout, qu'il fallait qu'ils soient en harmonie avec elle pour pouvoir avoir des récoltes, pour pouvoir avoir à manger, que finalement tout dépendait vraiment d'elle. Et leur foi était entièrement dédiée à cette terre-mère. Pour tous les aspects de la vie pratique, même pour le mariage, de savoir avec qui ils allaient aller, des enfants, tout, ils s'en référaient absolument tout à elle. Et c'était elle qui disait quoi faire. Et c'est fascinant de voir qu'il y avait tant d'abnégation, tant de dévouement de la part de ce peuple à cette terre-mère. Elle était omniprésente dans leur vie. Et en même temps, tellement triste de constater que c'était la création qu'ils étaient en train d'adorer plutôt que le Créateur. Mais leur foi m'a inspirée de voir combien ils avaient cette conscience que les choses ne dépendaient pas d'eux, mais ils dépendaient de quelque chose de supérieur. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir finalement ce qu'apporte notre foi au quotidien. En quoi est-ce que la foi finalement nous amène-t-elle un regard différent sur la vie ? Et dans la Bible, la foi peut avoir plusieurs sens, comme en français d'ailleurs. Elle peut désigner la bonne foi, la fidélité, à l'inverse de la mauvaise foi. Dans certains passages, il s'agit de l'ensemble des doctrines chrétiennes, d'avoir la foi, finalement, de croire tout ce qui nous est enseigné, surtout lorsqu'il est question de la foi qui est transmise aux saints. Ailleurs, c'est l'adhésion à ces vérités qui correspond un peu plus au mot croyance, la foi, avoir la croyance, finalement, des choses qui nous sont dites. Et cette croyance, elle est vraiment indispensable pour nous approcher de Dieu. La foi, elle peut aussi révéler l'allure d'une confiance dans l'obtention de quelque chose que on peut avoir, la foi dans les promesses que Dieu nous fait. Et puis la foi, ça peut aussi être la foi qui sauve. Et c'est celle que l'on va voir ce matin dans notre passage, même si, bien sûr, il y a tous les autres éléments de la foi qui sont aussi présents. Mais c'est celle par laquelle, finalement, on cesse de s'appuyer sur nos propres forces. On cesse de s'appuyer sur les hommes qui sont à côté de nous pour se confier totalement à la grâce de Dieu. Non plus pour recevoir un avantage particulier, mais tout simplement pour être libre, pour être justifié, pour être sauvé, pour être vivant. Et en fait, c'est de cette foi-là dont nous allons parler un peu plus ce matin. Alors, le passage que l'on va prendre est un passage connu, très connu des Hébreux. Et voilà, je suis heureuse de pouvoir tomber là-dessus ce matin. Et Hébreux 11, on va commencer à lire les trois premiers versets, les versets 1 à 3. Ce fameux passage bien connu du Nouveau Testament. Donc, Hébreux 11, verset 1, dans la version du Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. On reprendra la lecture par la suite. On ne va pas tout lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. Et même notre passage de ce matin va jusqu'au chapitre 12. Donc voilà, on prendra quelques passages. La foi, comme on l'a dit, amène une certaine vision du monde qui ne se limite pas à ce que l'on voit, à ce qui est perceptible naturellement. Le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est grâce à elle qu'il trouve son sens et son harmonie. Cette parole est invisible, bien sûr, mais elle a été créée par quelque chose d'invisible. Nous faisons partie, nous aussi, de cette création. Et c'est aussi par cette parole que nous avons été créés. Et il n'y a qu'en Dieu que nous pouvons trouver une cohérence, finalement, dans ce que nous vivons, y trouver un sens, à nouveau être en harmonie avec notre Créateur. Alors la foi, c'est être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est être persuadé qu'un monde invisible est bien présent, même si nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Alors ce chapitre 11 des Hébreux, il est bien connu pour la liste des hommes de foi dont il nous est parlé. On appelle d'ailleurs ce chapitre, hein, celui des héros de la foi, ce qui peut faire un peu rêver, mais aussi nous laisser un peu perplexes. Alors soit on se sent pas du tout à la hauteur de ce que ces hommes ont pu faire, cela ne nous concerne pas directement, ou alors on pense qu'on serait prétentieux de dire qu'on pourrait peut-être les imiter. Mais je pense qu'en fait, ce ne sont pas les faits qui ont été accomplis qui sont remarquables, mais plutôt l'état d'esprit qui a amené ces personnes à de tels actes. Pour quelles raisons, finalement, ces héros de la foi ont été amenés à accomplir ce qu'ils ont fait? Finalement, ce chapitre part surtout de l'état intérieur, de la manière de penser et de voir les choses. Il parle de notre vision du monde et de comment cela impacte dans notre vie de tous les jours. Alors nous allons voir que ces personnages ont élargi leur champ de vision. Ils ont regardé bien plus loin que ce qu'ils pouvaient voir devant eux, grâce au salut qu'ils ont reçu par la foi. Par la foi, ils se sont rendus agréables à Dieu. Dans la foi, ils sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient. Et grâce à la foi, ils ont fait des choses extraordinaires ou alors ont pu surmonter l'innommable. Vivre par la foi, finalement, c'est vraiment tout un état d'esprit, une nouvelle perspective et qui peut aussi impacter notre vie à nous. Donc nous allons parcourir un peu ce chapitre en s'arrêtant surtout sur trois personnages. Abel, qui a été agréable à Dieu. Moïse, qui lui a regardé plus loin, qui était dans l'attente de quelque chose de plus grand encore que ce qu'il avait. Et Jésus, qui lui est l'exemple suprême de la foi. Alors Abel est le premier mentionné dans cette liste. On peut lire peut-être le verset 4, donc toujours dans le même chapitre. On va lire le verset 4 et puis on sautera au verset 6. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, donc grâce à la foi, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il a prouvé ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Et au verset 6, c'est juste parce qu'au verset 5, on parle d'Enoch et puis on ne va pas tout mélanger. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On s'arrête là pour la lecture. Être agréable à Dieu. Il nous est dit qu'Abel a offert un sacrifice qui a plu à Dieu. Nous ne savons pas grand-chose de ce sacrifice, mais nous savons simplement que ça a coûté la vie d'un animal et il a voulu donner le meilleur qu'il possédait à Dieu. En fait, ce n'est pas tant l'offrande qu'il a faite qui est importée, mais encore une fois, dans quel état d'esprit il a fait ce cadeau à Dieu. Il est dit que c'est grâce à sa foi que Dieu l'a approuvé, donc l'a accepté, mais l'a aussi sauvé, l'a aussi déclaré juste. Abel a simplement cru en ce Dieu invisible. Et il a reconnu que tout venait de lui. Et grâce à cela, Abel allait recevoir une récompense inattendue. En retour, il n'est pas considéré comme devant mourir devant Dieu, mais il devient quelqu'un d'agréable à ses yeux. Il n'est pas juste sauvé, mais il est devenu une personne que Dieu apprécie, avec qui il est à nouveau en communion, avec qui il peut à nouveau être en relation. Abel a été sauvé par la foi. Et c'est de loin la meilleure récompense qu'il ait pu avoir. même si son acte lui a coûté la vie, hein, parce que son frère l'a tué par jalousie, mais peu importe, son exemple nous suit encore aujourd'hui. Et si nous reprenons le verset 2 que nous avons lu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Et comme on l'a lu aussi au verset 6, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il existe, mais et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et c'est vraiment ce en quoi Abel a cru. La foi est présentée comme l'attitude que Dieu apprécie, une démarche, chercher Dieu, s'approcher de lui, mais qui est fondée sur cette conviction vraiment que Dieu existe. Et comme les Cogiz qui voient en la terre-mère celle qui peut tout, Abel a vu en Dieu vraiment celui qui est au-dessus de tout, comme on l'a chanté ce matin, vraiment que c'est de lui que tout dépend. Celui à qui il peut faire tous les sacrifices, parce qu'il sait finalement qu'en Dieu, il a la vie, qu'en Dieu seul prend tout son sens. La foi, elle est indispensable pour être approuvée de Dieu. Seule la foi nous permet de retrouver cette harmonie, cette cohérence avec qui nous sommes vraiment. Finalement, dans notre société, on entend tous ces gens qui recherchent cette harmonie avec eux-mêmes, finalement, et en Dieu, c'est vraiment cela qu'on peut retrouver, être réconcilié finalement ce monde invisible avec ce monde visible, être agréable aux yeux de Dieu. C'est le point de départ pour entrer dans cette nouvelle dimension. Et cela nous amène à voir le monde de manière totalement différente. Même si le monde invisible nous échappe, la foi nous permet de croire qu'il existe vraiment, mais vraiment, encore une fois, de croire que c'est de lui que vient tout ce que l'on voit ici. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte au quotidien ? Déjà être en paix, tout simplement, être en paix avec soi-même, être en paix avec Dieu, retrouver le sens de pourquoi nous avons été créés, parce qu'on a été créés pour le louer, qu'on le veuille ou non. Savoir d'où nous venons, de qui nous dépendons, savoir vers qui nous tourner, qui est notre guide. Et puis c'est plutôt appréciable de savoir qu'on est agréable aux yeux de Dieu, de savoir que malgré tous nos manquements, nos défauts, nos faux pas, il ne nous tient plus rigueur de tout ça. Il prend juste plaisir en nous. Il aime être avec nous. Finalement, l'amour, c'est un bon moteur pour avancer. Savoir qu'on est aimé et de le réaliser concrètement, ça peut donner des ailes pour avancer. Réaliser que notre vie, elle est désormais centrée sur Dieu, à ce moment-là, peut-être que nos intérêts vont changer. Si nous réalisons que tout nous vient de Dieu, peut-être que on ne va plus vivre pour les mêmes choses. Et plus loin, justement, dans notre texte, nous voyons qu'avec un tel état d'esprit, la vie sur Terre, elle prend une autre teinte. Il nous amène à vivre des situations différemment, à faire des choix peut-être un peu surprenants pour notre vie ici sur la Terre. Et c'est là où nous allons prendre l'exemple de Moïse, ce deuxième personnage. On va reprendre la lecture au verset 24. Au verset 24, il nous est dit « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Comme Abel, il croyait en ce Dieu invisible. Il était prêt à tout lui donner, même prêt du coup à laisser ce magnifique statut qu'il attendait en Égypte. Et il a choisi de souffrir avec ses frères plutôt que de profiter ponctuellement d'une vie faite de plaisir mais qui aurait pu être loin de Dieu. Et pour lui, toutes les difficultés et les galères qu'il allait vivre, il les voyait comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait vraiment les yeux fixés sur la récompense à venir. Si ça ne vient pas de Dieu, mais qui aurait envie de souffrir tout cela ? Alors cette récompense à venir, c'est la vie éternelle avec Dieu, le privilège d'intégrer cette cité permanente dans laquelle Dieu nous attend. Et notre récompense, c'est la joie d'être en sa présence, cette parfaite harmonie définitivement retrouvée en lui. Cette perspective nous permet finalement de voir aussi, encore une fois, les épreuves et les difficultés du moment un peu différemment. Bien sûr, hein, cela ne va pas rendre l'épreuve moins dure. Peut-être que même la foi va en rajouter d'autres, parce qu'on ne va pas être compris par ce qu'attend le monde. Et Moïse, d'ailleurs, lui-même, il aurait pu se contenter de rester dans le cercle familial de Pharaon et d'être un témoin dans ce milieu-là, parce qu'il y avait aussi besoin. Il aurait été bien placé pour cela, mais ce n'était pas la place que Dieu avait pour lui. Dieu, il attendait autre chose. Il avait un autre plan, et Moïse a accepté de le suivre. En cherchant finalement les intérêts de Dieu, hein, nous sommes amenés à faire des choix qui peuvent aller à contre-courant de notre société, être incompris, même par les amis parfois. Ça n'a pas de sens finalement de faire ces choix si notre vision s'arrête à ce que nous voyons. Comme on le voit dans ce chapitre, il y a plein d'autres personnages dont il nous est parlé. Noé qui a choisi de faire confiance à Dieu et de construire une arche, même si cela pouvait sembler complètement absurde. Je pense aussi à tous les missionnaires qui cherchent à s'engager, à aller dans un pays où ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas la culture, des fois avec des conditions de vie bien différentes d'ici, où il faudra vraiment tout apprendre. Mais cela prend tout son sens, justement, s'ils le vivent dans la foi que le Seigneur leur a donnée. Une foi qui sauve, hein, c'est devenir agréable à Dieu et finalement vouloir que ses intérêts deviennent les nôtres. C'est investir dans l'invisible. Et quand nous faisons ce que le Seigneur a prévu pour nous, ben alors il y a des belles choses qui peuvent se produire. Dans la suite de notre passage, hein, l'auteur énumère plein de magnifiques victoires remportées par la foi avec le Seigneur. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la conquête des royaumes, obtenir la réalisation des promesses que Dieu leur a faites, voir finalement tout simplement Dieu agir, Dieu à l'œuvre, dans toute sa splendeur. C'est ça que nous voyons quand nous avançons par la foi. Et c'est vraiment motivant pour avancer. Alors dans notre quotidien, hein, cela peut se traduire par des actes vraiment anodins, en essayant de suivre les idées des fois que l'esprit met dans nos têtes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois on peut être un peu surpris. Il y a une idée qui passe et on se dit « mais je n'y avais pas pensé, c'est complètement fou, mais pourquoi pas ?» Et puis j'ai un exemple tout banal, hein, qui m'est arrivé il y a quelques années. Alors j'en suis pas très fière, mais il y avait une amie qui m'avait parlé d'un camp... Un camp de marche qui était proposé pour les adultes. Et en regardant les dates, je savais que je ne pourrais pas participer cette année à ce camp-là. Et j'avais très envie, mais voilà, je savais que ça serait vraiment pas possible. Et pourtant, l'idée de réserver une place m'est venue en tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? Ça ne sert à rien. Enfin, je sais que ça sera une place perdue. Et j'ai laissé ça de côté. Quelques semaines après, y a ma cousine qui, cette année, se retrouvait seule et qui m'a dit « Est-ce que, Nathalie, tu n'aurais pas une idée d'un camp que je pourrais faire ?» Et je lui ai parlé de ce camp de marche. Je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Elle a appelé, il n'y avait plus de place. Et là, vraiment, j'étais déçue. Je me suis dit « Oh là là, mais mince, si j'avais écouté cette petite voix, ça me paraissait tellement absurde. » Et terre à terre, je me suis dit « Non, ça ne sert à rien. » Et voilà, l'enjeu n'était pas grand, mais ça m'aurait tellement fait plaisir de pouvoir... Juste me dire, mais c'était le timing parfait de Dieu, là. Je n'avais pas compris pourquoi, mais si je l'avais fait, ça aurait pu lui servir. Ben voilà, c'était une occasion manquée. J'ai tellement regretté finalement de ne pas être allée au bout, mais je ne me suis pas... Malheureusement, ça m'a aidée après, par la suite, pour d'autres choses où je me suis dit, c'est pas grave, tu ne comprends pas, mais fais-le quand même et tu verras plus tard. Et à la suite de toutes ces victoires... Quelque chose de moins marrant, mais l'auteur, il énumère également toutes les épreuves que ces personnes, par la foi, ont pu passer. La torture, la prison, les moqueries, le fouet, la persécution, la maltraitance, l'errance, etc., etc., le rejet, et tout ce que nous, on peut vivre aussi peut-être par notre foi aujourd'hui. Alors, ça fait rêver personne, hein. Et pourtant, cela, c'est à cause de leur foi qu'ils l'ont vécu. Et Dieu ne les a pas épargnés. Il les a aidés à surmonter cela. Il ne les a pas épargnés parce qu'il avait encore quelque chose de bien meilleur à leur proposer. C'était l'éternité avec lui. Dieu est tellement tout. Il était tellement tout pour eux que peu importe finalement ce qui allait leur arriver, même certains ont refusé d'être libérés de prison parce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose de meilleur à venir. Le plus important, il n'est pas sur cette terre, il est à venir. Et tout au long du chapitre, finalement, si vous le relisez, en trame de fond, il y a cette idée que tous ces gens qui ont avancé dans la foi n'ont pas reçu ce qu'ils avaient espéré. Ils n'ont pas reçu ce qu'on leur avait promis. Simplement, si on peut relire peut-être au verset 13, on revient un tout petit peu en arrière. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu sur ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dans laquelle ils étaient sortis, ils auraient pu y revenir, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, toutes ces personnes ont vu plus loin. Ils savaient qu'ils étaient étrangers sur la terre. Ils savaient que leur patrie n'était pas ici. Ils ont grandi avec toutes les promesses que le Seigneur leur avait données. Mais ils ont vu plus loin. Et aujourd'hui, notre situation, elle est bien différente. Hein. On n'est pas un peuple nomade. On est bien installé ici en France, avec un vrai confort de vie aussi. Hein. Mais notre vie de foi, le salut que l'on a, peut nous donner la vision d'un avenir différent. Alors il est difficile hein, pour nous de s'imaginer être déracinés d'ici, peut-être qu'on a même envie d'y rester encore un peu, tellement de belles choses à voir, tellement de choses dans lesquelles on pourrait profiter. Mais Seigneur, que vraiment il puisse nous donner cette soif d'être avec lui, cette attente d'être juste en sa présence, cette insatisfaction d'être séparé de lui pour le moment. Et juste de profiter des quelques instants qu'il nous donne de pouvoir être en sa présence. Au chapitre 12, le dernier passage que nous allons lire, les premiers versets du chapitre 12, l'auteur s'adresse à nous. C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Voilà l'exemple suprême, Jésus. Jésus qui, lui, a tout supporté, parce qu'il avait cette vision de tout ce monde invisible, parce qu'il savait où était le meilleur. Alors, dans ce passage, on m'avait donné une fois cette image, et là, je trouve vraiment jolie de... Pensez, imaginez-vous courir dans un stade, il y a les JO bientôt, mais courir dans ce stade où il y a plein de gradins, vous participez du coup à une course d'endurance, et c'est loin d'être facile, hein, il faut tenir le rythme, mais dans les gradins sont présents tous ceux qui ont déjà couru avant vous. C'est pas juste des spectateurs, mais vous savez qu'ils ont déjà participé à cette course et qu'ils sont arrivés au bout et qu'ils sont là dans les gradins et qui vous encouragent. Savoir qu'ils sont déjà passés par là donne de l'élan, hein, parce qu'ils savent, et peut-être que certains ont vécu même des choses plus difficiles. Et on peut les entendre dire « Vas-y, donne tout, n'hésite pas, tu verras la récompense qui est à venir. Oh, ça vaut toutes les difficultés, ça vaut tous les efforts pardon, que tu es en train de vivre. » Et c'est le rôle finalement de cette foule-là, de tous ces témoins dont on nous parle dans la Bible, d'être un encouragement pour nous aujourd'hui. Ils ont enduré tout cela avec le Seigneur. Alors, pourquoi pas nous ? Donc, on termine avec cet exemple de Jésus. Il clôture finalement cette liste des héros de la foi. Il est l'exemple par excellence. Finalement, la plus grande épreuve de Jésus, ça a été d'être séparé de Dieu, d'être séparé de son Père et que la colère de Dieu vienne sur lui. Qu'elle se déchaîne sur lui. Et à cela, bien sûr, s'est ajouté l'humiliation, la trahison, le rejet des hommes. Il savait qu'il ne pouvait absolument pas compter sur l'humanité. La seule personne en qui il pouvait compter, c'était Dieu. C'était ce monde invisible. et il est allé jusqu'au bout, parce qu'il voyait vraiment plus loin que sa mort. Il avait en vue la joie qui lui était réservée, et la joie, c'était d'avoir définitivement la victoire sur la mort. C'était la joie de savoir que nous aussi, on pourra être avec lui, on pourra être à nouveau en harmonie avec le Seigneur, on pourra être appelés ses frères et ses sœurs. Il nous aime tellement qu'il se réjouit aussi de ce qu'on va pouvoir passer l'éternité avec lui. Il se réjouit de ce qu'on peut déjà être enfin libre. Il se réjouit de pouvoir reconstituer son peuple, de rassembler tout son troupeau, de ramener tous les siens à la maison. Voilà, c'est ça son souhait le plus profond. Et comme Jésus, il avait en vue cette joie qu'il attendait, ben nous sommes encouragés à garder cet objectif des yeux, la joie d'être à tout jamais avec Dieu. Alors ce chapitre, hein, bien plus que des simples pas de foi, finalement, il nous montre tout un nouvel état d'esprit à avoir. Notre esprit qui est transformé quand nous venons à Christ. Croire en Dieu, c'est reconnaître que tout nous vient de lui, que de ce monde invisible existe tout ce qui est visible aujourd'hui. Être à nouveau libre, être à nouveau agréable à Dieu. De ne pas être condamné, c'est pas un père fouettard que l'on a, c'est un Dieu qui, simplement lui, il nous voit déjà libres. Fini cette culpabilité qui nous enferme. Ce ne sont plus nos intérêts qui comptent, mais ceux de Dieu. Et grâce à la foi, nous ferons des choses extraordinaires. Ou alors, il nous aidera à surmonter aussi les choses plus difficiles. Mais avec cette belle récompense qui nous attend, l'éternité en sa présence. Je propose de terminer par la prière. Seigneur, quelle joie de nous avoir montré le chemin, de savoir qu'on vient de toi, on dépend de toi, qu'on a été créé par toi. Merci de nous avoir montré tout cela, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux pour qu'aujourd'hui on puisse être réconcilié avec toi, pour qu'on puisse être en paix avec toi et pour ce temps sur la terre où tu nous permets d'avoir une autre vision, une vision plus grande de ce que l'on peut voir ici, Seigneur, et une vision si belle. Merci de cette place que tu nous réserves là-haut, de la joie que tu as, Seigneur, de nous attendre là-haut et de savoir qu'on va passer l'éternité avec toi, que cette joie aussi puisse grandir dans nos cœurs et qu'on ait vraiment ce désir profond juste d'être avec toi. Merci pour cet amour infini. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.